Vous écoutez le podcast Devenir écrivain, épisode 177.
Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Polowski, fondateur des éditions de L'Homme sans nom et formateur.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Devenir écrivain. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimitri Pavlovski, créateur des éditions de L'Homme sans nom et cofondateur de l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires. Je reviens pour vous proposer une nouvelle chronique littéraire axée autour de conseils d'écriture. Après le petit aparté que j'avais fait dans le précédent podcast que j'animais autour des relations auteur-éditeur. Je vais donc faire un petit rappel de ce en quoi consiste ce format. Tout simplement, je prends un roman et je vais vous en parler à la fois sous un angle de présentation entremêlé de légères critiques littéraires et à la fois sous un angle où je m'attarde autour de quelques points bien spécifiques qui peuvent être intéressants pour vous sous un prisme d'auteur ou d'autrice. Je continue à explorer des genres différents afin de pouvoir vous guider dans de multiples directions et j'en profite pour vous rappeler et préciser une chose. Même si le roman que j'aborde lors d'un podcast ne rentre pas dans le genre littéraire dans lequel vous écrivez, les conseils que je peux donner resteront bien souvent, et même je dirais quasiment tout le temps, pertinents pour vous. Parfois pas de manière extrêmement directe, mais ils refléteront bien souvent des points que vous pourrez appliquer en les adaptant à votre projet. De même, ils auront la possibilité de vous amener des éléments plus théoriques, et maîtriser des choses qui ne vous servent pas directement est toujours utile. D'une part, vous ne savez pas dans quel genre littéraire vous écrirez votre livre suivant. D'autre part, avoir une maîtrise plus transversale, plus purement théorique donc, est quelque chose qui va vous aider à composer votre bagage d'auteur, votre bagage d'autrice, et à faire progresser vos compétences globales. Enfin, parce qu'il est aussi toujours intéressant et utile de se tourner en matière de lecture vers d'autres genres littéraires que ceux dans lesquels on écrit, même si on écrit de manière assez spécialisée. Cela permet à la fois de voir d'autres choses, mais aussi de s'aérer l'esprit. Deux points très importants quand on se consacre de manière intensive à l'écriture. Ne pas s'enfermer, se cultiver de manière large, c'est quelque chose qui sera utile, quel que soit votre profil d'auteur, votre profil d'autrice. Je vais aujourd'hui me tourner vers un genre littéraire que je n'ai pas encore abordé, même s'il y a des ponts avec le podcast que j'avais fait autour de Hellraiser, car je vous parle aujourd'hui d'un thriller fantastique, en la personne de Hidden Pictures de Jason Rechulak, aux éditions Brajlon. Hidden Pictures est le second roman de Jason Rechulak après La forteresse impossible, sorti en 2017. L'homme est aussi connu pour avoir fait partie du studio créatif Quirk Books, et être une des têtes pensantes derrière l'improbable, je pense que c'est vraiment le terme adéquat, mélange entre les classiques de littérature et des éléments de genre, voire d'horreur, notamment, et pour citer le plus connu d'entre eux, Orgueil et Préjugés et Zombies, dont Rechulak a confié la réduction à 7 Graham Smith pour un résultat mélangeant Jane Austen avec des zombies et, précision importante tout de même, également des ninjas. Un mélange improbable mais qui a eu un succès fou, menant notamment à une adaptation audiovisuelle. Rechulak est également connu pour avoir travaillé sur des adaptations, notamment des collaborations sur des livres d'images tirés de Maman, j'ai raté l'avion, X-Files ou encore Retour vers le futur, mais aussi un livre pop-up sur le Graceland d'Elvis Presley. On le voit, outre une inventivité très audacieuse, Jane Austen plus zombie plus ninja, je le rappelle, l'homme a souvent travaillé sur des œuvres mettant en avant des facettes visuelles. Rien de surprenant donc à ce que Hidden Pictures propose quelque chose d'un petit peu différent. Si on prend le livre et qu'on le feuillette, on s'aperçoit ainsi qu'à intervalles plutôt réguliers, on y trouve des illustrations. Je vais vous donner une petite recommandation en amont. Ne feuilletez pas le livre après son premier quart, au risque de vous divulgâcher quelques éléments de l'intrigue. Une image étant en effet parlante de manière souvent beaucoup plus directe qu'un écrit, c'est autrement risqué que de lire un titre de chapitre ou une phrase isolée dans un roman. Rien qui puisse dévoiler en profondeur l'intrigue, je vous rassure, mais malgré tout, cela peut casser une partie des mécaniques narrativo-visuelles. Car, et c'est une des grandes forces de ce Hidden Pictures, les éléments dessinés visuels vont avoir un rôle dans l'histoire, et pas un rôle négligeable, ce n'est pas simplement de la décoration. Je vais revenir sur ce point après vous avoir brièvement présenté le point de départ de l'histoire. Donc dans Hidden Pictures, on va suivre Mallory, une ancienne toxicomane d'une vingtaine d'années qui tente de se réintégrer à la société, après un parcours en cure de désintoxication. Par la biais de son parrain, elle trouve le boulot apparemment parfait. Babysitter d'un petit garçon de 5 ans dans une famille très aisée dans un beau quartier de banlieue. Un cadre parfait donc pour repartir sur des bases saines, d'autant qu'elle est nourrie, logée et blanchie, et que le petit Teddy est adorable, même si ses parents ont un côté bobo qui va un peu déstabiliser la jeune femme au départ. permettant aussi par ce biais à Reculac d'aborder un petit côté choc des classes sociales en thématique de fond de son histoire, vraiment discrète et plutôt bien dosée. Le truc, c'est que Teddy adore dessiner. Des lapins, des arbres, des ballons, comme tout gamin de son âge, mais aussi une terrifiante, disons-le, amie imaginaire. Grosso modo, imaginez un croisement entre Sadako de Ring et une créature complètement décharnée. Puis, petit à petit, il va dessiner des dessins de plus en plus angoissants, qu'il dit en plus avoir écrit sous l'influence de cette fameuse amie imaginaire. Dont on va donc assez rapidement se demander si elle est réellement, vraiment, uniquement imaginaire. Et c'est ainsi que les dessins de Teddy vont servir à faire avancer l'histoire, par le biais des interactions de Mallory avec le garçon à travers les dessins, mais aussi par le biais de ce que ces dessins racontent et de ce que cela a comme impact sur le récit. Mais ils vont également contribuer à faire grimper la tension du récit par leurs éléments mystérieux et pour le moins oppressants. Je me répète, mais j'ai un traumatisme profond sur ce film, mais quoi de plus glauque qu'un dessin d'enfant représentant une amie imaginaire ayant l'allure de Sadako dans The Ring ? Et ces dessins vont aussi participer au mystère que le lecteur va, aux côtés de Mallory, tenter de résoudre. On y cherche des indices, on se projette pour tenter de les comprendre, de les analyser. Enfin, ils vont faire évoluer le ressenti qu'on a de la situation, à la fois par leur évolution de contenu, mais également de réalisation. Et la progression de ce que racontent ces dessins est parfaitement dosée par Reculac. Que ce soit en matière de dosage des dessins en quantité dans l'histoire, ils ne sont ni trop nombreux ni trop rares, et accompagnent l'histoire, le récit sans en casser le rythme, ou encore en matière de ce qu'ils vont raconter. Ils accompagnent l'histoire et apportent des éléments d'une manière redoutablement efficace à travers un double prisme. D'une part, le fait que c'est bien plus efficace de montrer les dessins que de les décrire. C'est rapide, direct, et ça évite de se perdre en descriptions interminables qui auraient probablement moins de force. D'autre part, ils racontent quelque chose à la fois par leur visuel, mais aussi, comme je l'ai dit, par leur exécution, la façon dont ils sont réalisés en tant que dessin. Et ainsi, ils permettent tout autant de poser une ambiance pour le lectorat que de lui donner des informations narratives d'une manière efficace. Reculac parvient à trouver un équilibre loin d'être évident pour que ses dessins servent son propos et qu'on se dise que le roman n'aurait pas pu exister sans eux. Mais une représentation visuelle magnifique et parfaitement pensée ne servirait à rien si le récit qu'elle accompagne et qu'elle guide n'était pas de qualité. Et là aussi, Reculac parvient à ses fins avec une vraie virtuosité. À travers son choix de narration première personne, on est plongé dans la psyché de Mallory. Et cela permet d'évacuer tout un pan narratif de son histoire. En effet, on ne doute pas de la véracité de ce que vit et voit Mallory. Ce choix, s'il supprime une couche narrative potentielle, a-t-elle repris de la drogue, ce qui expliquerait tout ce qu'elle imagine vivre, est au final une décision extrêmement judicieuse. En ce qu'elle permet à Reculac de se recentrer sur ce qu'il veut raconter, sans rajouter une interrogation qui au final viendrait parasiter un propos qui est quand même malgré tout déjà dense, construit autour d'un portrait de personnage en rédemption et en rémission, dans un cadre de thriller fantastique à twist et révélation. Ainsi, le lectorat peut se concentrer sur les tentatives de résolution de mystères aux côtés du personnage et être confronté aux nombreux twists narratifs d'une manière aussi forte que possible. Je ne peux pas dire grand-chose sur les révélations que vous rencontrerez tout au fil de l'histoire, car je ne veux pas spoiler, divulgâcher le récit, mais tous ces éléments de révélation, aussi improbables puissent-ils paraître, sont réellement extrêmement bien amenés et construits, en se concentrant sur les personnages, leurs motivations et leurs évolutions, tout en réussissant la belle manœuvre de surprendre le lectorat avec des contre-pieds extrêmement intelligents. Pour en dire juste ce qu'il faut, on est sur des jeux de faux-semblants très bien amenés et surtout cohérents pour ce qui est de la cohérence interne du récit. Cela me permet d'amener ma transition vers ce que vous pouvez retirer de la lecture de Hidden Pictures en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, avec un premier mini-conseil. On voit ici qu'en ayant fait le choix du moins, Reculac a supprimé un axe narratif potentiel, celui du doute lié à la perception de son personnage principal. Donc en ayant fait le choix du moins plutôt que le choix du plus, qui aurait été de rajouter encore une couche de complexité à son récit, Reculac a servi son histoire. La preuve, si besoin était, qu'une histoire n'a jamais besoin d'en avoir le plus possible, mais qu'elle a besoin de ce dont elle a strictement besoin. Je vais à présent aborder quelques points spécifiques du roman qui pourront vous servir en tant qu'auteur, en tant qu'autrice. Notez que si je limite les révélations au maximum, je suis amené à en dévoiler potentiellement un tout petit peu plus sur l'intrigue que dans la première partie. Tout d'abord, premier point, cela ne va pas vous surprendre, je vais évoquer les illustrations. En littérature, on est en effet souvent tenté d'utiliser des effets de mise en forme, d'un certain côté de mise en scène. Des polices de caractère original, des notes de bas de page décalées, des constructions narratives alambiquées ou comme ici des illustrations. C'est quelque chose de souvent très tentant, mais bien souvent, cela va surtout desservir un projet car cela va mal fonctionner. Cela va rendre la lecture moins naturelle, moins fluide et ainsi de suite. un effet particulier, une mécanique en temps normal facultative, ne doit pas être simplement gadget, elle doit servir le récit. Et, comme je vous l'ai indiqué dans ma partie un peu plus critique de l'ouvrage, Reculac parvient à faire que les illustrations apportent quelque chose à l'ouvrage. L'idée ici est simple. Quand vous voudrez avoir une originalité dans votre texte, il faudra vous assurer que la façon de procéder va fonctionner au moins aussi bien que si vous étiez passé par une approche plus simple, plus directe, et je dirais même que cette approche vous permettra de mieux faire fonctionner votre récit. En gros, votre gadget narratif doit devenir quelque chose qui est la seule solution pour vous raconter votre histoire de la meilleure façon possible. C'est bien pour cela, parce qu'à la base, vous écrivez des romans, donc des choses qui passent par les mots et les mots seuls, que les situations où ces effets particuliers fonctionneraient mieux qu'une approche plus simple restent rares. Il faut donc être particulièrement prudent et prudente si vous voulez en utiliser un. Dans l'absolu, ça doit venir de manière naturelle, on va dire un petit peu organique. C'est très compliqué de se dire « je vais faire un roman avec 112 polices de caractères différentes » et d'avoir quelque chose qui au final fera du sens parce que vous devrez trouver l'histoire qui pourra se prêter à ça. Dans les faits, ça sera beaucoup plus naturel, ça fera beaucoup plus sens si vous avez dans le même temps l'idée du sujet et le fait qu'il aurait une particularité. Donc c'est quelque chose qui peut venir un petit peu dans un sens, dans un autre, mais normalement il y a un côté un petit peu plus commun, cohérent, où forme et fond vont s'entremêler dans votre réflexion autour du projet. Cela même si évidemment on peut trouver des exceptions, comme avec les textes de Marc Danielewski, notamment La Maison des Feuilles, ou peut-être même encore plus Aux Révolutions, et sa construction narrative Tête Bêche, où on va lire deux romans 8 pages par 8 pages, d'un côté du roman puis de l'autre. On est sur des textes où on arrive rapidement sur des approches qui vont confiner plus à l'écriture expérimentale. Donc forcément quelque chose qui sera plus niche vis-à-vis du lectorat ciblé. Mais malgré tout, je pense que dans un futur épisode du podcast, il ne serait pas impossible que je revienne sur Danielewski, certainement sur La Maison des Feuilles, qui reste un roman extrêmement impressionnant et dont je ne peux que vous recommander la lecture. Un autre exemple que je connais bien d'ailleurs pour avoir travaillé avec son auteur dessus, j'ai parlé de Seconde Humanité, un roman d'Adrien Mangold, un texte qui est composé de deux romans entremêlés. On suit d'abord la première moitié d'une histoire, qui montre un personnage confronté à une situation apparemment impossible à résoudre pour lui. Puis on va lire un roman enchâssé, qui correspond à un manuscrit que lit ce personnage. Puis on en revient à la seconde moitié de la première histoire, où le personnage se sert de ce qu'il a appris pour résoudre son problème. Au niveau de la mise en page, on a cherché à apporter quelque chose reflétant ce découpage un peu original, tout en restant globalement sobre, en partant du principe que l'idée déjà de roman enchâssé était un élément narrativement fort et il n'y avait pas besoin d'en faire des tonnes. On voit bien ici l'importance du dosage quand vous allez avoir des effets un petit peu particuliers dans votre roman. Avec Hidden Pictures, on peut voir une étape au final assez poussée de cette réflexion, assez avancée, donc de l'utilisation d'un élément potentiellement gadget, mais au final parfaitement utile à l'histoire. Si vous voulez vous attaquer à ce genre d'originalité, c'est vraiment un exemple à suivre pour bien faire les choses à mon sens. Le second point qui peut se révéler extrêmement intéressant est la façon dont Reculac va entremêler une intrigue de fantastique horrifique avec un travail très important sur son personnage. Comme je l'indiquais dans la critique, le fait de suivre Mallory en narration première personne va permettre de lever tout doute sur la véracité de ce qu'elle vit, et ainsi de se concentrer sur les faits, sur l'enquête du personnage pour comprendre ce qui se passe, mais aussi pour pouvoir rentrer dans son intériorité la façon dont elle va se questionner, douter, chercher à avancer dans sa nouvelle vie, alors qu'elle a l'opportunité de saisir une occasion de se diriger dans la bonne direction. Cela fait que, même si la facette terreur du récit reste ténue, vu qu'on est au final plus sur un récit d'ambiance, la tension narrative n'en reste pas moins très marquée. Cela parce que les enjeux se retrouvent sur un double plan. D'une part, cet événement fantastique que le lecteur sait être vrai et qui peut se révéler être une menace pour Mallory, mais aussi, voire surtout, le fait que Mallory, au fil du récit, se retrouve isolée par le fait qu'elle ne parvient pas à prouver le ressenti qu'elle a de l'ami imaginaire de Teddy, qui n'est peut-être pas si imaginaire que cela. Et ce fait se retrouve à menacer sa place de babysitter, donc sa porte vers sa réinsertion sociale, mais aussi les relations, notamment amoureuses, qu'elle est en train de construire dans cette nouvelle vie. C'est ainsi que Reculac instille un double enjeu, surnaturel et humain, entremêlant les deux comme une double menace sur son personnage principal. On voit bien dans la construction du récit, et je ne peux que vous inviter à vous en nourrir, la façon dont on va pouvoir entremêler un enjeu grande ampleur et hors du personnage, et quelque chose à échelle beaucoup plus humaine et dans l'intériorité de son personnage principal. Le dernier point que je tiens à évoquer est lié au concept de fusil de Tchekhov, qui vient, comme son nom l'indique, du dramaturge Anton Tchekhov, et que je vais citer pour l'occasion. Supprimez tout ce qui n'est pas pertinent dans l'histoire. Si dans le premier acte vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec au second ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Dans les faits, cela dit que tout doit être essentiel au récit, mais c'est aussi, je dirais même voire plus, devenu dans l'usage un peu plus courant, un peu plus familier, un élément qu'on va placer dans le récit, qui semble potentiellement ne pas avoir d'importance, mais qui trouvera une place, et une place importante, au final, un peu plus tard, à un moment auquel on ne s'attend pas forcément. Cela dans une approche un petit peu parallèle du signe annonciateur, le fameux chose que nos amis anglo-saxons appellent « foreshadowing ». Je vais vous lire un extrait du premier chapitre du roman, dans lequel Mallory raconte une expérience qu'elle a vécue quand elle se droguait et où elle participait à des expériences médicales pour se payer ses doses. Dans la scène en question, elle vient de suivre une doctoresse et arrive dans une petite pièce sans fenêtre. Je démarre l'extrait. 5 hommes jeunes étaient assis sur une rangée de chaises pliantes. Ils avaient tous les yeux rivés au sol, alors je n'ai pas pu voir leur visage. Mais j'ai décidé qu'ils devaient être étudiants en médecine ou interne. Ils portaient tous des blouses stériles d'hôpital bleu vif qui avaient encore la marque des plis, comme si elles étaient flambant neuves. Très bien, Mallory, nous allons vous demander de vous placer debout face à ces hommes. Juste là, sur la croix, c'est parfait. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer avant de vous bander les yeux. Je me suis alors rendu compte qu'elle tenait un masque noir, le genre de bandeau au coton doux que ma mère mettait pour dormir. Elle m'expliquait que tous les hommes qui regardaient actuellement par terre allaient au cours des prochaines minutes regarder mon corps. Mon rôle consistait à lever la main si je sentais le regard masculin sur ma personne. Elle m'a dit de garder la main levée pendant toute la durée de mon ressenti et de la baisser uniquement quand celle-ci disparaîtrait. L'expérience va durer 5 minutes, mais quand elle sera terminée, nous vous demanderons peut-être de recommencer. Avez-vous des questions avant de poursuivre ? Je me suis mise à rire. Oui, dites, vous avez lu 50 nuances de graines ? Parce que je suis à peu près sûr que ça, c'est dans le chapitre 12. Suzanne a souri poliment à ma tentative d'humour, mais aucun des hommes n'a réagi. Ils étaient tous occupés à tripoter leurs bloc-notes, à synchroniser leurs chronomètres. L'ambiance dans la salle de cours était très studieuse. Suzanne a placé le bandeau sur mes yeux, puis a ajusté la lanière pour qu'il ne soit pas trop serré. Très bien, Mallory, vous êtes à l'aise ? Oui, oui. Vous êtes prête à commencer ? Oui. Alors je vais compter jusqu'à 3. Messieurs, préparez vos chronomètres. 1, 2, 3. C'est très bizarre de rester debout sans bouger pendant 5 minutes dans une pièce parfaitement silencieuse, les yeux bandés, en ayant conscience que des types sont sans doute en train de te regarder les seins, les fesses ou autre chose. Il n'y avait aucun bruit ou indice qui aurait pu me permettre de deviner ce qui se passait, mais je les sentais clairement m'observer. J'ai levé et baissé la main à plusieurs reprises et les 5 minutes m'ont paru durer 1 heure. Une fois qu'elles se sont écoulées, Suzanne m'a demandé de recommencer l'expérience et nous avons tout repris à zéro. Puis elle m'a demandé de recommencer une troisième fois. Et, quand elle m'a enfin retiré le bandeau, tous les hommes se sont levés pour m'applaudir, comme si je venais de remporter un Oscar. Suzanne m'a expliqué qu'ils avaient passé la semaine à réaliser cette expérience sur des centaines de femmes, mais que j'étais la première à obtenir un score quasiment parfait, à signaler le regard 3 fois avec 97% de précision. Les deux hommes de faire une pause, puis elle m'a emmené dans son bureau et a commencé à me poser des questions, à savoir comment avais-je su que les hommes me regardaient. Je n'avais pas les mots pour lui expliquer, je le savais, c'est tout. C'était comme un papillonnement à la périphérie de ma conscience, une sorte de sixième sens. Je parie que tu l'as déjà senti, que tu sais exactement de quoi je parle. Et puis il y a une sorte de bruit. Elle a écarquillé les yeux. Vraiment, vous entendez quelque chose ? Des fois, c'est très aigu, comme quand un moustique vient bourdonner trop près de votre oreille. Elle a attrapé son ordinateur portable avec un tel empressement qu'elle a failli le lâcher. Elle a tapé un tas de notes, puis elle m'a demandé si je serais prête à revenir dans une semaine pour effectuer d'autres tests. J'ai dit que pour 20 balles de l'heure, je reviendrai aussi souvent qu'elle le voulait. Je lui ai donné mon numéro de portable et elle a promis de m'appeler pour fixer un rendez-vous. Mais le soir même, j'ai changé mon iPhone contre 5 Oxy 80. Alors elle n'avait aucun moyen de me retrouver et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Maintenant que je suis clean, j'ai un million de regrets et avoir échangé mon iPhone est le moindre d'entre eux. Mais parfois, cette expérience me revient en tête et je me pose des questions. J'ai essayé de retrouver la docteure en ligne, mais comme tu l'as vu, je me souviens même pas de son nom. Un matin, j'ai pris le bus jusqu'au centre médical universitaire, j'ai essayé de retrouver l'amphithéâtre, mais le campus a complètement changé. Il y a un tas de nouveaux bâtiments et tous les repères sont brouillés. J'ai essayé de googler des phrases comme détection du regard ou perception du regard, mais tous les résultats disent qu'il ne s'agit pas d'un phénomène réel, qu'il n'y a aucune preuve que des gens ont des yeux dans le dos. J'imagine que je me suis résigné au fait que cette scène n'a pas vraiment eu lieu, que c'est un des nombreux faux souvenirs dus à mon abus de l'oxycodone, de l'héroïne et d'autres drogues. Russell, mon parrain, dit que les faux souvenirs sont courants chez les drogués. Il dit que le cerveau d'un toxico se souviendra de fantasmes heureux afin d'éviter de s'apesantir sur les vrais souvenirs, toutes les choses honteuses que nous faisons pour nous défoncer tous les plans foirés que nous avons faits aux gens bien qui nous aimaient. Déjà, on voit qu'on a une écriture extrêmement efficace, une mise en place du personnage très précise, on est vraiment dans le tout début du roman, et on a des éléments qui permettent vraiment de plonger dans son intériorité. Une narration un petit peu originale avec de temps en temps des adresses au lecteur, un effet narratif sur lequel je reviendrai peut-être dans un podcast un jour, mais je tiens à vous dire que c'est quelque chose à manier avec précaution parce que ce n'est pas évident. Mais surtout, on a un élément sur lequel on va avoir un point de doute, mais dont on se dit, si on a eu ça dans les premières pages du roman, il y a toutes les chances que ça serve à un moment ou à un autre du récit. On se pose ainsi la question naturellement, a-t-elle vraiment cette sorte de don bizarre ? Et quand les événements surnaturels surviennent, qu'elle se sent observée par une présence étrange dans le cabanon où elle est hébergée à côté de la demeure des parents de Teddy, on se dit que ce don est avéré, et qu'il fait qu'elle ressent réellement la présence de l'ami imaginaire que les autres adultes ne peuvent ressentir. On a donc une première utilisation de cette scène qui semblait un peu étrange, potentiellement en partie déconnectée de la suite du récit. Ça vient la justifier, mais ça vient aussi éclairer le pourquoi du comment il arrive à Mallory ce qui lui arrive dans son interaction avec Teddy. Mais, et je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas vous gâcher le plaisir de la découverte, il y aura dans l'utilisation de ce point de narration, ce don étrange de Mallory, un rebondissement très bien pensé, particulièrement inattendu, extrêmement bien justifié, et qui permettra d'éclairer certaines des révélations finales du roman d'une manière parfaitement naturelle. On retrouve aussi ici la pertinence du choix de la narration première personne, en ce qu'on est vraiment plongé dans les ressentis de Mallory, ce qui fait que ce choix de narration avec le travail sur l'intériorité du personnage et l'utilisation de ce fusil de Tchekhov résonnent très bien ensemble. En lisant Hidden Pictures, vous pourrez donc voir une utilisation parfaitement bien construite d'un fusil de Tchekhov très futé et surtout parfaitement intégré aux subtilités de la construction du roman. Nous voici arrivés à la fin de cette chronique littéraire slash conseil littéraire autour de Hidden Pictures de Jason Rakulak aux éditions Bragelonne. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vos projets d'écriture. Pour celles et ceux qui voudraient un petit peu creuser la question de l'écriture, des techniques d'écriture, n'hésitez évidemment pas à vous inscrire à notre newsletter qui vous propose des conseils d'écriture hebdomadaires, mais également qui vous permettra d'être tenu au courant des prochaines dates d'inscription pour notre prochaine session de formation proposée par l'Institut des carrières littéraires, prévue pour le début d'année prochaine. Au sein de cette formation, on vous propose un accompagnement sur 9 semaines où on vous donne une méthode de travail pour mener votre projet d'écriture de la manière la plus efficace possible, avec des exercices, une interactivité poussée avec une équipe de formateurs triés sur le volet et un retour éditorial sur le début de votre projet littéraire. Donc, si vous avez envie de passer à la vitesse supérieure dans vos projets d'écriture, inscrivez-vous à notre newsletter et n'hésitez pas à nous rejoindre à notre prochaine session de formation. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de ce podcast.
Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licares.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licares.fr/formation.